et vous écoutez France Culture. Je sentais la haine durcir en moi, et c'était presque agréable tellement c'était énorme, pur, intense. Emma Clyde. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. À quoi jouent les enfants, à quoi rêvent les jeunes filles, à la haine, à l'absence et à la mort, à un grand jeu fatal auquel on ne joue qu'une fois. Telle sera la leçon à tirer des œuvres mises à l'affiche ce soir par Mauvais Genre, qui vous en dira plus sur l'autre film de Robert Mulligan, magnifiquement réédité par Whiteside, et sur The Girls d'Emma Klein, roman paru chez Key Voltaire. Hommage en clôture d'émission au génial dessinateur et illustrateur argentin Carlos Nin, décédé cet été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre avec qui je suis ce soir, entouré par Jean-Pierre Dionnet. Bonsoir Jean-Pierre Dionnet.
Bonsoir.
Et bon retour sur scène.
Et bien sûr, la rentrée.
C'est la rentrée, le musical du samedi soir. Petite question sur votre été. Est-ce que ça a été fructueux en découverte, en lecture, en visionnage, en intuition, en trouvaille? Dites-nous en plus, Jean-Pierre
Oui,
Dionnet.
Alors comme une partie de ces découvertes et intuitions, je compte les partager avec vous, je me tairai.
D'accord.
Mais par exemple, je me suis fait le plaisir, puisque nous avons parlé de Robert Mulligan, de revoir presque tout, y compris les derniers, y compris le tout dernier d'ailleurs, Un été en Louisiane. Parce que comme c'est un metteur en scène qui a eu ses hauts et ses bas... eh bien, je vous rassure, quand on revoit les films, il n'a pas eu de haut et de bas. Il a eu juste une carrière dans le scie où le succès a parfois été suivi de l'échec. Mais donc, j'ai fait de la mulliganite aiguë.
Très bien. Bah, c'est une excellente maladie auquel nous allons évidemment nous laisser, par laquelle nous allons nous laisser également contaminer. Bonsoir, Sixtine Audebert.
Bonsoir, François.
Bonnes vacances.
Très bonnes
Studieuse
vacances.
Studieuse et mauvais genre, comme
tout
toujours.
Tout à fait. J'ai commencé un travail de recherche sur le latin dans la culture métal extrême.
Admirable.
Que j'invite tous nos suiveurs sur Facebook à fournir en référence.
Voilà, absolument. Soutenons l'effort de Sixtine dans sa découverte du métal, du latin dans le métal extrême. Et puisque nous aurons évidemment un beau livre à l'issue de tout cela. Mais avec vous, Sixtine, on va évoquer bien sûr The Girls d'Emma Klein, paru chez Key Voltaire, qui fera un peu le pendant à notre émission avec Simon Liberati, mais on parlera également de l'étrange festival auquel vous nous représentez. Quant à Philippe Rouillet, ma foi, il continue à tailler la route.
Eh ben absolument. Bonsoir François,
voilà,
bonsoir à tous.
Prochaine actualité, monsieur Rouillet.
Mon dossier est fait spéciaux dans le positif de mois de novembre.
Ah ben, nous en
parlerons.
Voilà, nous en parlerons et nous le lirons avec intérêt. Mais avant cela, bien évidemment, il est temps pour nous d'ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais genres avec Céline Duchesnay. Ce soir, ce sera à quelle lettre ?
À la lettre M comme Moravia, Camille Moravia.
Bonsoir, pour des raisons uniquement artistiques, j'ai besoin de la liste des gens désirant faire l'amour avec moi. Ça a pris une ampleur phénoménale, etc. Et les gens lisent mal, mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est que les gens traduisent rapidement. Mais c'est génial, j'aurais probablement fait la même chose. Hein. Mais elle va coucher, forcément, elle va coucher. Moi, je dis rien. Donc, à la suite de ça, j'ai demandé aux gens intéressés par ça de m'envoyer leur adresse postale. Et je leur ai envoyé à chacun, donc il y avait 69 participants, quelques femmes, majoritairement des hommes, quelques artistes, mais pas que. J'ai envoyé donc 69 mouchoirs, dont des carrés blancs masculins classiques, que j'avais brodés, je ne sais pas broder. J'avais brodé mes initiales CM tout en haut et j'avais dormi avec pour mettre mon odeur. Et donc j'ai envoyé ça aux participants avec une enveloppe anonyme pour qu'ils puissent me le renvoyer. Et en leur mettant simplement dans l'enveloppe, j'ai besoin de la trace de ton désir, puisqu'on est parti là-dessus. Et donc les gens ont joué le jeu, en fait. Alors, il y en a quelques-uns qui ont gardé fétichement le mouchoir, mais pas tant que ça. J'ai eu un mouchoir qui est revenu avec une photo de bite. Voilà, c'est à peu près les seuls trucs qui se sont passés. Mais autrement, tous les autres, en fait, ont essayé de répondre, mais avec beaucoup de tendresse, hein, et beaucoup de... ils y mettaient beaucoup d'eux, en fait. Alors, peut-être aussi que c'est ce que je proposais, on sait bien ce que j'attends, c'est-à-dire des traces de sperme, en gros, enfin des traces du désir, donc il n'y a pas beaucoup de solutions. Et peut-être que c'est un peu compliqué de renvoyer à une inconnue simplement ce petit mouchoir-là. Avec ça. Donc il y avait beaucoup de poèmes aussi écrits là-dessus, ou des... Il y a un homme qui s'était fait opérer de la prostate, par exemple, et donc qui m'a envoyé des poils découpés pubiens pour me dire, bah voilà, tu auras quand même mon ADN. Enfin, donc il y avait beaucoup de subtilité, beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur, et ça, c'était avec des inconnus. Donc j'en ai fait après un accrochage, mais voilà, c'est ce qu'on peut jouer avec des gens qu'on ne connaît pas et en toute bienveillance, finalement.
Camille Moravia, un nom d'artiste construit en deux temps, qui sent bon le Godard, le mépris et l'amour ravageuse du personnage de Camille, joué par Brigitte Bardot. Un nom qui, bien sûr, renvoie aussi à l'univers de l'écrivain Alberto Moravia, chantre de l'intime. D'intimité, de sexualité, de fantasme, il est évidemment question dans le travail de Camille Moravia, vous l'aurez deviné. Son premier champ d'expérimentation, à dire vrai, c'est elle, c'est son corps. Après avoir posé nue pendant des années, elle décide un beau jour de prendre son appareil photo et de se mettre en scène. Camille Moravia peut ainsi photographier ses orgasmes, des sexes, ses corps à corps amoureux avec les femmes, des images qui pourraient faire monter en soi des ondes de désir, mais sa démarche est tout autre, ni pornographique, ni érotique. Sa photographie est directe, crue, frontale. Il y a dans son travail, qu'elle publie essentiellement sur les réseaux sociaux afin de toucher le plus grand nombre, une forme révolutionnaire qui vise à remettre en question la projection des désirs sur le corps de la femme. Exhibitionniste, Camille Moravia, et pourquoi pas, si c'est pour provoquer le dialogue, pousser à la réflexion, car sur Internet, elle accompagne ces images de textes qui font réfléchir. L'univers de Camille Moravia est donc visible sur les réseaux sociaux et à cette adresse www.camillemoraviablog.wordpress.com et joie à la Galerie de la Voûte dans le 12e arrondissement de Paris où Camille Moravia expose actuellement des photographies plus douces. Le nom de cette exposition, Le jour où j'ai eu. À vous de compléter la phrase au gré de vos envies et celles de Camille Moravia y sont visibles en ce moment et ce jusqu'au 25 septembre 2016.
Pierre Dionnet, ce que lui aurait envoyé s'il avait reçu pareille lettre de Camille Moravia, si vous aviez demandé si vous avez envoyé
si
sa lettre.
Si on vous avait dit j'ai besoin de la trace de votre désir, Jean-Pierre Dionnet, qu'est-ce que vous auriez envoyé?
Qu'aurais-je envoyé?
La trace de votre désir.
La trace de mon désir, eh bien je crois qu'avec une petite éponge de cuisine, j'aurais mis un peu de salive baveuse. J'aime bien la petite goutte perlé, un petit peu champagnisé, j'allais dire, qui sort de la bouche à des moments de plaisir et de jouissance, et ça me semble beaucoup plus parlant que choisir le liquide de la reproduction, ce qui, en plus, dégage une odeur en séchant tout à fait épouvantable. D'amidon. Sans gaieté.
Alors n'envoyez pas votre amidon, envoyez plutôt les délicieuses bulles de salive champagnisée qui pointent à la commissure des lèvres, et ce sur une petite éponge. Monsieur Rouillé, vous-même?
Peut-être un enregistrement de ma voix.
Voilà.
Oh, il se prend pas pour rien, lui.
Très non, mais le désir passe aussi par la voix.
Tu as raison.
C'est pas une question.
Oui. Un coton imbibé de sang, mais pas de sang menstruel. Hein, sang.
Très bien, ben voilà, vous avez une sorte de portrait.
Le sang menstruel est pur aussi.
De l'équipe de mauvais gens.
Je remarque que tout le monde ici. C'est les dangers du vaudou. Personne n'envoie de cheveux, de regnurdons.
C'est ce que j'allais dire.
Comme ça, hein.
Merci Céline pour cette entrée. Camille Moravia de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres. Et avant d'entamer le dialogue avec l'autre de Robert Mulligan, donc somptueusement édité par Wildside, quelques mots, Sixtine Audebert, sur l'étrange festival que vous avez donc découvert cette année et où vous nous représentez. Alors qu'avez-vous vu et puis quelle émotion en avez-vous retenu?
Par rapport à mon parcours, donc je dirais depuis les sirènes dévoreuses d'hommes de The Lure, à l'actrice femme-enfant hystérique d'Antipas, porno, en passant par l'ado de 14 ans qui a peur de rendre sa boîte à musique de Girl Asleep et la stalkeuse de Wet Woman in the Wind, je dirais que mon parcours de l'étrange, dans l'étrange festival, a été celui finalement d'une sexualité généralement phobique et traumatique, autant pour des réalisateurs de sexe masculin que de sexe féminin, qui a été donc, je dirais, sublimement... sublimé par Chion Sono. J'ai trouvé anti-porno absolument estomacant comme film. Et parmi, oui. Et parmi les autres films qui m'ont marqué, il y en a un particulièrement dont je n'arrive toujours pas à savoir si je l'ai trouvé bon ou mauvais.
C'est bon signe, ça.
Voire particulièrement mauvais, parce que c'est ce que les spectateurs à la sortie de la salle avaient l'air de dire, qui est un film de la réalisatrice allemande Julia Ostertag, donc, qui s'appelle Dark Circus et qui est un long métrage. Très, très petit budget. Et en fait, donc elle a l'habitude de faire des courts-métrages plus ou moins engagés, qui sont, à mon avis, pas trouvables sur Internet. Et là, en l'occurrence, c'est une espèce de fable néo-païenne dans le royaume d'Isis et d'Astarté, et qui met en fiction l'underground SM berlinois. Et donc, c'est une jeune fille qui rencontre un succès constant dans sa vie quotidienne et qui, finalement, décide de retourner au monde de la nuit. Enfin, qui est appelé par le monde de la nuit, le monde des buveurs de sang, des sorciers, des gothiques, finalement. Et donc, il y a un certain nombre de performances qui sont affichées à l'écran. Il y a du shibari, ou kimbaku, que les auditeurs voilà. de mon genre connaissent désormais très bien. Il y a des suspensions corporelles, c'est-à-dire que c'est pas la même chose que shibari, ça se fait à même la peau, avec des crochets qui sont comme piercings temporaires pour la performance, et puis d'autres modifications corporelles, des espèces d'aiguilles plantées dans le visage, etc., et puis des manifestations fétiches plus banales. Et donc tout ça, c'est représenté en fait comme des rituels, comme une espèce d'initiation à cette communauté marginale, etc., mais qui est radicalement marginale. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un dialogue aussi entre cette réalité de la communauté et la réalité sous-culturelle du gothique. Et donc effectivement, c'est tourné avec des très petits moyens, donc c'est très kitsch. On a des filtres noirs et blancs, des espèces de flous de débutants. Et puis, il y a en vérité... C'est quand même une représentation de la culture gothique dans sa plus pure et simple vérité. C'est-à-dire que les costumes ne sont pas des costumes de films, ce sont des costumes gothiques. Mmh. Et donc, elle est vue de l'extérieur. Donc, il y a un mélange entre la fiction et le documentaire qui n'est pas passé très bien, je pense, pour tous les spectateurs. Tout est mis en scène, les récits fantastiques, donc avec les sacrifices, les rituels et les déguisements qui, finalement, sont parfois un peu grotesques. Et on ne sait pas... On ne sait pas finalement si tout le monde arrivera à ressentir ou si c'est trop radical ou alors trop débile finalement pour ceux qui sont dans la salle. Donc je ne sais pas. C'était. Sinon, je signale aussi un dernier film qui reste à voir dimanche, donc 17h45, Grave. Donc le film franco-belge dont Philippe Rouillet peut peut-être parler.
Bah oui, parce qu'il était à la semaine de la critique, c'était une des révélations de Cannes. Moi, je lui aurais bien donné la caméra d'or. Hein. C'était une jeune femme en prépa école vétérinaire qui est végétarienne et qui, lors du bizutage, découvre que finalement, la viande, c'est bon. Et elle aime trop ça, en fait. Peut-être que ses parents l'ont guidée, le film raconte ça, peut-être que ses parents l'ont guidée vers le végétarisme pour la détourner de sa véritable nature qui est vraiment carnivore. Et le film raconte ce rapport au corps à ça, et c'est très intéressant, c'est que c'est vraiment un film d'horreur, mais qui est dans un univers très quotidien, et ça m'évoque un peu le travail de Claire Denis dans Trouble Everyday, c'est-à-dire la dévoration de la chair, comment ça peut se passer, comment on peut être homme-femme dans la vie de tous les jours, et en même temps avoir ces pulsions cannibales.
Voilà, donc 17h45 dimanche, Forum des Images.
Un premier long métrage à ne pas manquer.
Merci. Sixtine Audebert, donc pour ses impressions de vision et de spectatrice de l'étrange festival, impression que l'on retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans la page Facebook de Mauvais Genre. Merci également à Philippe Rouillet. L'heure est venue maintenant d'aller à la rencontre de l'univers de Robert Mulligan, de savoir de nous deux qui est l'autre.
Everything you need is mine. Everything is a big vision. A decision must be signed. A given voice, a given choice. A losing limit, center point. A given voice, a given choice. A losing reducing limit, center point. I would give them all they need. I would give them all they need. Everything they know and read. But they must cross the line. The line. A given voice. A given voice.
Sound World Collective with Jesse Paris. On entend la voix de Patti Smith, un choix de Laurent Polleret en ouverture de notre playlist ce soir à Mauvais Genre sur France Culture. Alors, L'Autre de Robert Mulligan, film totalement mythique qu'on peut la redécouvrir ou découvrir dans des conditions optimum, puisque comme toujours, Wildside a très bien fait les choses avec un combo, comme on dit, à la fois Blu-ray et DVD, puis un très riche livret central bourré de photos sur la carrière de Mulligan, sur le tournage du film, les affiches étrangères et un très très bon texte qui fait le point sur l'ensemble de l'histoire du film, ouvert bien évidemment par la phrase de Arthur Rimbaud, je est un autre. Mais avant de parler du film de Mulligan, Jean-Pierre Dionnet, on va dire quelques mots du roman dont il est tiré, roman oui. de Thomas Tryon, qui oui. était lisible, il fut un temps, si monsieur a son mot, en Terror Pocket, collection que l'on salue, mais collection disparue, et qui est vraiment lui aussi un grand roman fantastique.
C'est un grand roman. Thomas Tryon, c'est un peu une histoire de fou. Il est né dans le Connecticut, à Hartford, entre ville et campagne, ce qui est important, parce que la campagne est très présente dans ses livres. Il a été acteur, il a refusé des rôles importants, comme un rôle dans Psychose. Et puis, il a joué quelques rôles pas mal, par exemple, dans Les Cavaliers de Frankenheimer, mais surtout, surtout, il est dans Le Cardinal de Preminger, qui va être particulièrement odieux avec lui. On sait que Preminger ne lâche pas ses mots.
Maître.
C'est-à-dire qu'il va choisir le jour où ses parents lui rendent visite sur le film, dans Le Cardinal, on sait qu'il est le rôle principal, pour le virer.
Ouais.
Et il va le réintégrer dès que les parents sont partis. Il est à ce moment-là dégoûté du cinéma, mais ça, c'est la version officielle. Parce que je remarque quand même que 2 ans plus tard, il va faire Amir Victoire avec Preminger. Donc, rien n'est simple. Toujours est-il qu'il se tourne vers l'écriture et qu'il me semble être le chaînon manquant entre la littérature d'horreur d'avant et d'après. Son premier livre sera La Fête du Maïs, une espèce de célébration païenne
King, oui.
qui vient un an avant Wickerman aussi.
Mm-hmm.
Son deuxième sera L'Autre, qui sera adapté aussi sec. Il veut le réaliser, il fera le scénario, c'est déjà bien. Son troisième, faisant partie d'une série d'acteurs qui ont disparu, comme Ramon Navarro, et qui avaient un passé un peu trouble, ce qui est son cas d'ailleurs sur sa vie sexuelle, on ne sait pas grand-chose, ce sera Fedora. Il haïra le film de E. Wilder.
Il a bien tort. Hein.
Oui, mais c'est son point de vue. Il n'aimera pas beaucoup non plus...
L'Autre.
L'Autre.
Mais il voulait le réaliser, donc évidemment.
Mais... Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, il a une influence, même si elle n'est pas dite, sur Stephen King, sur Peter Straub, et ça, Peter Straub me l'a dit. Et vous verrez qu'il y a une scène avec un corbeau qui s'envole et on voit le ciel,
ouais.
qui est parmi les scènes favorites de Peter Straub. Et quand il écrira La Tour Sombre avec Stephen King, le début, c'est ce corbeau qui s'envole. Et ensuite, Thomas Tryon écrira Lady, d'autres romans, il sera... en tête des best-sellers pendant pas mal de temps, et il fera une très très belle carrière d'écrivain, n'ayant qu'un regret, c'est de ne pas être passé à la mise en scène. Ceci dit, il était très bien dans Le Cardinal.
Voilà, donc merci Jean-Pierre pour ce silhouettage fort précis de la personnalité de Thomas Tryon. On peut d'ailleurs, on ne peut que conseiller la lecture de L'Autre en même temps que
oh,
la
absolument.
Vision du film, puisque l'un répond à l'autre et on peut voir tout le travail d'adaptation qui a été fait. Classroom Project, le cœur d'enfants morts. Philippe Rouillet, Alors, le film, l'autre, donc, de Milligan est de 72, mais avant cela, on peut déjà aussi parler de la... On a évoqué effectivement rapidement avec Jean-Pierre ça, la carrière de Mulligan. Avant de faire l'autre, comment s'achemine-t-il comment s'achemine-t-il vers ce film?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui vous intéresse, François. C'est quelqu'un qui se destinait à être missionnaire quand il était adolescent.
Effectivement, ça.
Et il a fait des études théologiques. Et c'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a évidemment détourné de ce projet. Il a été bombardé dans les Marines où il a fait radio. Et entre-temps, il a découvert les femmes et il s'est dit que c'était pas du tout une bonne idée d'être missionnaire, que ce qu'il aimait, c'était un peu l'imagerie. Il se voyait à cheval ou à
Charles
moto,
de Foucault, oui.
Voilà. Et que finalement, journaliste, c'était bien aussi. Donc, à la sortie de la guerre, il rentre comme journaliste à CBS et de la réalité à la fiction, il n'y a qu'un pas qu'il va franchir, il va devenir réalisateur pour CBS. Et en fait, on a souvent... l'intention de dire que l'autre est un film très à part dans sa filmographie parce que c'est la seule incursion dans le fantastique. En fait, pas du tout. Si on regarde ce qu'il a fait à la télévision, en 51 et 52, il faisait une émission hebdomadaire qui s'appelait Suspense, qui durait une demi-heure, qui était en direct, hein, c'était à l'époque de la télévision où on faisait les dramatiques en direct, et qui étaient des adaptations, et il y avait énormément de contes gothiques. Et il a gardé ce goût de ça, et quand il se met à faire des longs métrages à partir de 1957, hein, son premier long métrage, c'est une histoire que lui amène Alain Gipakula, qui avant d'être scénariste, avant d'être cinéaste de Les Hommes du Président à cause d'un assassinat de Clout, va travailler avec Mulligan, au moment où il devient cinéaste, il recherche passionnément une histoire qui pourrait être fantastique, horrifique. Il s'en approche un peu parce que son premier film, c'est avec Anthony Perkins, qui est un joueur de baseball qui est soumis à des phobies. Et donc, il y a déjà un côté presque psychose avant l'heure. Si bien que quand il touche les épreuves du roman L'Autre, il sait tout de suite que c'est pour lui. Parce qu'il y a tout. C'est-à-dire que quand on regarde ses films entre son premier film avec Perkins et puis L'Autre, qui est donc en 57, et puis L'Autre en 72, on s'aperçoit que ce sont des films très centrés autour de l'enfance, notamment l'adaptation du best-seller Du silence et des ombres, avec Gregory Peck dans le rôle d'un avocat qui défend un noir accusé de viol. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le livre, comme le film, est du point de vue des enfants de l'avocat. C'est-à-dire que c'est pas juste un récit, à la Capra de l'Amérique et de la défense. C'est vraiment des enfants qui découvrent le monde des adultes. Et ce thème-là va courir jusqu'au grand succès qui précède L'Autre, qui est En été 42. Qui est une histoire d'initiation et Jean-Pierre avait raison de dire tout à l'heure dans sa présentation que on dit qu'il y a des hauts et des bas, mais qu'en fait c'est qu'il y a eu des succès et des échecs. Un été 42 a été un grand succès, notamment en France, et tout à coup on s'est mis à s'intéresser à... Mais c'est vrai que Robert Mulligan n'est jamais quelqu'un qui s'est mis en avant, si bien que même quand en 62 il y a Du silence et des ombres, qui est un film qui est rempli d'Oscars, il n'en profite pas pour capitaliser à Hollywood. C'est-à-dire que lui, il continue à faire son bonhomme de chemin. Ce qui l'intéresse, c'est l'enfance confrontée au monde adulte, c'est la violence au cœur de l'homme, donc des sujets qui sont vraiment au cœur de l'autre, et pour ça, il n'y a pas de calcul, et il n'y a pas d'effet de style. C'est au contraire quelqu'un qui, dans sa filmographie, aura toujours tendance à dire « moi, je ne suis pas un auteur, je m'empare d'histoire, et pour chaque histoire, j'essaye de voir comment le réaliser le mieux possible ». Et on va le voir avec l'autre, si on regarde l'autre et qu'on compare avec Du sens et des hommes, ou Nicole Ride qui réalise juste après, c'est pas les mêmes effets de mise en scène. C'est vrai que... Mais c'est ça qui est très intéressant. Mais en cela, c'est toute une tradition du cinéma américain.
Mais il est quand même souvent au bord du fantastique. Dans Du silence et des ombres, il y a une séquence de forêt. On croirait que c'est la nuit du chasseur. Il y a la première apparition de Robert Duvall qui est totalement terrifiante.
C'est le thème de l'enfance, Jean-Pierre. Voilà. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on se met dans la tête des enfants, le monde des adultes paraît forcément fantastique.
Et l'homme sauvage... vu par un enfant,
chef-d'œuvre absolu, l'homme sauvage,
est un grand western gothique que j'aurais plutôt tendance à considérer comme un film gothique, avec un Indien qui symbolise tout le mal absolu qui peut surgir de n'importe où, d'autant que l'enfant est tiraillé entre ce père indien et à nouveau Gregory Peck. Et on peut dire que Nicole Ride, qu'on n'a pas revu, cet homme aux clés, qui tout d'un coup est dépossédé de son royaume souterrain dans le monde de la pègre, On est au bord du procès d'Orson Welles. On est dans un monde où ce petit bonhomme qui possède les clés de la ville, les clés intermédiaires entre les forces de l'ordre et les gangsters et tout, on est là aussi dans un sujet quasi fantastique. Évidemment que Philippe a raison, c'est que tout cela, et très souvent dans ses autres films, s'est vu au travers des regards d'enfants. Donc avec une espèce d'exagération du regard, et c'est souvent de leur point de vue, et en l'absence d'un point de vue autre, ce qui fait qu'on accompagne l'enfant. C'est pas pour rien que le premier prisonnier de la peur avait fasciné François Truffaut. C'est un cinéaste de l'enfance avant tout. C'est-à-dire que dans 4 sur 10 films ou 15 films, il en a fait 20 en tout, disons la moitié, l'enfance est centrale et la nécessité pour l'enfance d'essayer d'entrer dans le monde adulte en ayant du mal et souvent en prenant des voies qui ne sont pas celles qu'on attend.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, pour Mulligan, qui n'est plus un enfant, il y a une distance, c'est-à-dire retrouver le chemin de l'enfant pour faire quelque chose de crédible. Et cette mise à distance se retrouve évidemment dans ses mises en scène, mais aussi dans le choix des récits qui sont toujours dans le passé. Mulligan est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la réalité de son temps. L'autre se passe dans les années 30, beaucoup passent dans les années 40. Il y a toujours ce côté, et l'Americana, qui est quand même un des thèmes de ces films, se nourrit aussi de ce regard mélancolique.
Oui, et lui, il vient du Bronx, voilà. Et il est souvent fasciné par les petites villes, la province,
la campagne, oui.
Mais au sens de la peinture qu'on appelait ruraliste américaine, de Grant Wood, qui habitait à New York, qui était homosexuel, qui n'aimait que le douanier Rousseau et qui a fait le fameux portrait gothique américain. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un monde fantasmé de la campagne, contrairement à Thomas Schreiner. Justement,
mais il connaît en même temps le Connecticut.
C'est le cas. Alors, on va faire Philippe Rouillet ce qu'on ne doit jamais faire. On va spoiler.
Ouais, alors ça, faut le dire aux gens, parce qu'effectivement, soit on dit 2 minutes pour dire vous allez voir l'autre, soit on rentre dans le cœur du sujet, et là, évidemment.
Parlons du sujet du film, là.
Alors, c'est le jumeau de Pierre Richard, mais inversé. Non, non. Dans le jumeau de Pierre Richard, il y a 2 vraies jumelles.
Alors là,
ça, c'est nouveau.
Alors là, dans l'autre, c'est l'histoire d'un petit garçon, voilà, et ça commence comme une espèce de chronique de l'enfance où il est avec son frère et ils font un peu des tours aux adultes,
tours des souris à une vieille fille.
Bon, alors au départ, ça commence vraiment, on fait des mauvaises farces à la voisine, on se moque de ci, on se moque de ça, et petit à petit, ça devient de plus en plus épicé. C'est-à-dire que le petit cousin qui est un peu casse-bonbon, qui veut toujours s'imposer dans leur jeu, eh ben on va s'arranger pour qu'il ait un accident mortel, voilà. Et à partir de là, voilà. Et donc on a 2 jumeaux, mais ce qui frappe dans le film, c'est que dans la mise en scène de Mulligan, il prend toujours soin de ne jamais mettre les 2 jumeaux ensemble dans le même cadre du film. C'est-à-dire que très souvent, il y a le contre-champ. Et ils sont filmés comme ça, ils ne sont jamais filmés ensemble. Alors, c'est un paradoxe, parce que dans l'histoire du cinéma, les jumeaux, généralement, ne sont pas joués par des jumeaux, et au contraire, les réalisateurs n'ont qu'une hâte, c'est de les mettre ensemble dans le plan, c'est Jouvet dans Copie conforme, c'est Jeremy Irons dans Faux-semblant. Alors évidemment, dans Copie conforme, c'est qu'on a rembobiné la caméra, la pellicule dans la caméra, parce qu'on est dans les années 30 et qu'on n'a pas beaucoup d'effets spéciaux, et donc on partage l'écran droite-gauche. Chez Cronenberg, c'est un peu plus sophistiqué, il y a un système de cache électronique, parce qu'on est à l'orée des années 90, mais ce sont des effets spéciaux. Là, il a 2 jumeaux, donc il pourrait se permettre de les mettre tout à fait ensemble dans le cadre, mais il s'y refuse. Et ça crée une étrangeté très très intéressante. Dans le bonus, dans le bonus du DVD, notre ami Fausto, qui n'est pas Fausto là ce soir, Fagilo, mais que vous pouvez retrouver dans le bonus du film, explique très bien que le jumeau qui s'appelle Hollande, qui est plutôt le méchant, qui est lui toujours dans le contre-champ, est toujours très mouvant, mobile, alors que le héros qui s'appelle Nils, lui, est beaucoup plus statique. Et donc, il y a cette opposition, et voilà, où il faut bien dire le spoil, c'est qu'au bout d'1h05 de film, sur un film qui en compte 1h40, on découvre la tombe du jumeau Hollande. C'est-à-dire que il y a un des jumeaux qui est mort, et l'autre continue à le faire vivre dans sa tête. Et évidemment, il délègue à l'autre toutes les saloperies. Et donc, c'est pas lui, c'est mon frère, littéralement. Et c'est là que la mise en scène est très intéressante. Parce que c'est là qu'en ayant... d'une part, il n'y a pas de tromperie, puisqu'ils ne sont jamais ensemble dans l'image. Pour le spectateur, c'est très, très important. Il y a une sorte d'honnêteté de la mise en scène. Et puis, de déléguer à l'autre, ça renvoie bien, à mon sens, ce côté névrotique qui est le cœur du sujet. Et d'ailleurs, les scènes de meurtre, car je vous ai annoncé celui du cousin, mais il y en a bien d'autres derrière.
Alors, on peut ne pas trop en dire.
On va pas en dire. Mais ce que, la scène finale, façon, ce que même, je veux dire, oui. c'est que les scènes de meurtre ne sont jamais montrées.
Voilà. Voilà.
C'est-à-dire qu'elles sont jamais montrées parce que dans la tête de ce garçon, il ne fait pas de meurtre puisque c'est son frère qui les fait. Donc la mise en scène, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que la mise en scène accompagne le projet du film.
Et Jean-Pierre Dionnet. Les séquences de meurtre, là, on est bien à la campagne, elles ont eu lieu, on passe à autre chose.
Absolument.
On ne s'appesantit absolument jamais. Mais moi, ce qui me fascine dans ce film, en le revoyant, c'est que j'avais un souvenir d'une certaine beauté visuelle, comme dans L'été 42, dirais-je, ou comme Daisy Clover, tout le
autre
début
film
et tout.
De Robert Mulligan.
En fait, ça commence avec tellement de beauté visuelle, de fleurs, d'arbres. On a...
C'est capiteux de sous-bois.
On a Surtees, qui n'est pas un manche à la photo. Mais Surtees en profite pour utiliser au maximum des éclairages naturels qu'on n'aurait pas pu faire 10 ans avant, mais en captant une lumière naturelle qui amène à une grande beauté, y compris, j'allais dire, des fleurs qui s'en vont dans les champs, ou vous savez, quand on appuie sur certains... Quand on souffle dessus, les pétales s'envolent. Eh bien, il utilise « ce n'est jamais mièvre ». C'est toujours sentimental. Et cette beauté va s'assombrir progressivement. Mais la nature est en rupture totale avec le sujet. Alors, on en parlait off, et c'est vrai que je n'ai pas revu le même angle que Philippe, qui me dit que c'est quand même, ça s'assombrit beaucoup à la fin. Voilà. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est ce côté, la nature s'en fout. La nature est belle, etc. Bon, là, il y a une cave, il y a un grenier. Mais on est face à un film extraordinairement troublant, parce qu'on est amené à accompagner, mais c'est le cas dans presque tous les films de Mulligan, un sujet troublé, un personnage troublé, enfantin généralement, pas toujours, et avoir une immense empathie pour lui. Or là, elle va au-delà de tout, puisque notre empathie va à un monstre.
Now think as I have taught you.
Voilà un extrait de l'autre de Robert Mulligan, le petit garçon qui est un peu triste et consolé par sa grand-mère qui lui propose de jouer à un jeu curieux intitulé Le Grand Jeu, et c'est en définitive de la part de cette grand-mère russe une véritable incitation au chamanisme, puisque l'enfant, eh bien, est poussé lentement à la suite de toute une série d'exercices psychiques et intérieurs vers la dissociation, et là il rentre dans l'esprit, il rentre dans le corps d'un corbeau et il survole à la place du corbeau, et en même temps que le corbeau, la totalité du paysage. Et au départ, effectivement, on est dans une espèce de béatitude païenne. On est au cœur du mental de l'animal et on voit le paysage. Et puis, peu à peu, les choses vont se tordre puisque, alors, à l'issue de cet exercice visionnaire et chamanique, eh bien, il y aura la mort du cousin dont parlait Jean-Pierre. Voilà, le grand jeu auquel on joue dans l'autre de Robert Mulligan, avec une grand-mère quand même assez magnétique,
Monsieur Jean-Pierre. Une grand-mère incroyable qu'on n'a pratiquement pas vue au cinéma, qui est d'origine allemande, s'appelle Uta Hagen, qui arrive en Amérique, qui croise les gens Kazan, l'acteur studio, tout ça, etc., qui va être créée Virginia Woolf à Broadway, qui ensuite va faire des tournées en province pour, bien sûr, Un tramway nommé Désir. Donc elle sera en face une fois d'Anthony Quinn, une fois en face de Marlon Brando. Mais on ne veut pas d'elle au cinéma, nous sommes en plein macartisme, car elle est très proche, à tous les sens du mot, de Paul Robeson, le grand acteur noir
communiste.
Activiste. Communiste de plus. Donc ça va gêner sa carrière. Et en tournant en province, elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle Harold Klutman, et elle va réaliser que l'acteur studio qu'elle a étudié sous forme allemande à la Max Reinhardt ou sous forme Stanislavski et peut-être une erreur, et là on rentre dans le mysticisme, elle découvre avec Carole Kluttmann la transcience. C'est-à-dire qu'elle pense qu'on n'a pas besoin d'étudier le personnage extérieur, de prévoir ses marques au sol, de simuler les actions, qu'on a en nous-mêmes assez d'éléments pour devenir de l'intérieur le personnage, et que sa transformation en acteur, elle dit on n'est pas acteur, on le devient par quelque chose qui nous possède, donc on est dans le chamanisme absolu. Elle va l'appliquer à ses élèves, qui seront Al Pacino, Jason Robards, Jack Lemmon,
Juge l'art
donc
massif,
pas forcément n'importe pas, quoi, ouais. Et on ne la reverra pas au cinéma, mais dans le film, cette grand-mère qui provoque le jeu, j'ai laissé la parole à mon camarade, elle a un magnétisme et une force qui font penser aux grands personnages de la Universal, dont on n'est pas loin, puisqu'on est du côté des monstres dans ce film-là. Elle a une espèce de force magnétique immense, et elle provoque une sorte de transe chamanique chez l'enfant et même chez nous-mêmes, que forcément on va regretter, car qu'est-ce qu'on déchaîne ?
Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le jeu, là, ce jeu qu'on vient d'entendre, c'est ni plus ni moins qu'une application de la transcience dont tu parles, Jean-Pierre. C'est-à-dire que Mulligan, qui connaît évidemment tout ça de sa comédienne, l'a fait jouer presque son propre rôle à l'intérieur de la fiction. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, ce jeu, au début, nous paraît amusant, c'est-à-dire qu'on a le point de vue d'un corbeau, on va voir un spectacle de magie et on découvre le secret de la femme disparue dans l'armoire, etc. Parce que l'enfant... Mais finalement, le véritable jeu, c'est le film qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'on découvre la supercherie de l'enfant qui est dans la tête de son frère mort. Et c'est comme ça que le personnage, en fait, est très complexe. C'est-à-dire qu'au début, on croit que c'est une victime, que c'est un petit garçon qui est un peu malmené par son frère, qui a pris l'emprise sur lui. Et on découvre qu'en fait, il est dual. C'est-à-dire qu'il est à la fois, lui, la victime, mais il est en même temps le frère qui le sadise. Et il est les deux en même temps. Et ce jeu devient la mise en abîme du film lui-même. Puisque ce qu'on croit voir, ce qu'on croit être le réel, ce jeu, ce grand jeu de la grand-mère, c'est la négation du réel, parce qu'elle dit à son petit fils, tu es le corbeau. Et ce qu'il voit, c'est le point de vue du corbeau. Mais ce point de vue du corbeau n'est en fait que le point de vue du corbeau vu par l'enfant. Et en fait, ce qu'on voit dans le film qui est censé être vu l'enfant n'est en fait que le point de vue du héros. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le grand jeu a contaminé la mise en scène même du film. Et c'est en cela que le film est d'une richesse. Et Jean-Pierre, tu as raison de parler de cette emprise de la nature, de cette ineffable beauté de la nature qui est toujours là. Simplement, si le film devient plus sombre au fur et à mesure, c'est parce que Mulligan l'a voulu comme ça et qu'il se débrouille pour moins filmer la nature et entraîner plus le film dans la nuit. Dans les caves, toute la fin du film, c'est la nuit, etc. Parce que l'idée, c'est que la dernière image avec le héros, le petit garçon, revienne la première image, mais en double négatif, parce qu'il est derrière une vitre et il est passé littéralement de l'autre côté du miroir. Et nous, spectateurs, aussi.
Et ça nous fait penser, à ce moment-là, tout d'un coup, c'est un vertige, que tous les comédiens font partie du jeu, puisqu'ils sont exactement ce qu'elle décrit, que quelque part Mulligan, par les sujets qu'il aborde, de personnages fragiles ou difficiles, eh bien eux aussi, il est dans le jeu, Mulligan, que quelque part, ils sont dans un équilibre précaire, qu'ils font appel à des forces qu'on ne peut pas contrôler. C'est pour ça que c'est un film dont la magie, elle est entièrement dans le film, mais elle va plus loin que le film, c'est une mise en cause de notre regard sur ce qui était déjà les monstres de la Universal, sur l'autre. Hein. Mulligan était quelqu'un qui, sexuellement, était très hésitant. On va dire qu'il a commencé par vouloir mener une vie normale et puis s'est aperçu que c'était pas pour lui. Il s'est même retrouvé avec une pornostar mâle. Il avait du mal à vivre cette vie-là aussi. C'est le choix des monstres. Et c'est de dire que les acteurs sont des monstres, que quelque part, le cinéma qu'on est en train de faire là, cette histoire, ce récit, tout cela, ce sont des monstres. Bref, c'est un film qui vous laisse, juste avant qu'arrivent les grands chocs que vont être zombies, massacres à la tronçonneuse...
Et même l'exorciste l'année d'après, sur l'enfant possédé.
L'exorciste l'année d'après, oui, exactement. C'est un film bascule. C'est-à-dire que jusqu'avant, on est encore dans le gothique de la maison du diable. Après, on va être avec les masques de cuir. Et là, tout d'un coup, on est dans ce qui fait le plus peur, c'est-à-dire les peurs intimes et quelque part nous-mêmes spectateurs, on accepte le jeu.
Mulligan est fasciné par Hitchcock, il veut trouver un scénario à la Hitchcock et on pense beaucoup à Psychose en fait.
What is it? Snowman. Ada made it. People always call it a hawk. It's only a peregrine falcon. Peregrine for Perry. It is my ring, isn't it? You gave it to me, didn't you? Christ's sake, yes. I gave it to you. No, we forget about the ring. Just want to make sure. Look, the ring was granddaddy's.
Alors, un autre extrait de l'autre de Robert Mulligan, là, c'est effectivement un colloque souterrain dans la cave, avec de petites voix chuchotantes et secrètes entre, ben, je dirais, les deux jumeaux, entre l'un et l'autre. Voilà, donc un autre extrait de Mulligan. Il faut aussi un peu parler, on a parlé de la grand-mère, mais de l'humanité qui entoure les deux enfants. Il y a la mère, qui est une espèce de grande dame au physique un peu symboliste, évidemment martyrisée par la mort d'un des deux jumeaux. Et
oui, quelque chose un peu dépressif.
De son mari avant.
Et puis voilà. Le mari est l'un voilà, des deux jumeaux.
Elle a quelque chose d'Edith Scob.
C'est, oui, absolument. C'est les yeux sans visage,
c'est une adulte,
qui passe son film en chemise de nuit.
Qui passe sa vie en chemise de nuit, qui minaude, alors que l'enfant avec elle se sent obligé d'être adulte.
Mais ce qui est génial, c'est qu'en même temps, on a cette espèce d'archétype du personnage d'évaporé, mais cette femme extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle connaît parfaitement son garçon, et c'est à chaque fois elle qui met le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire oui. qu'elle va démasquer ses secrets à chaque fois, et elle devient une gêne, alors qu'il n'a qu'une idée, c'est de la cantonner dans cette espèce de femme constamment entre nuit et jour, qui passe sa vie dans les livres, et alors que elle est dans le réel, elle va le gêner, et du coup, bah, il va falloir avoir des réactions. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est comment tous les personnages, même des silhouettes de la famille, le cousin, le machin, apporte au film une tessiture, un feuilletage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une action violente, par exemple, il y a une action violente avec un nouveau-né, eh ben, ça a été préparé avant parce qu'on nous a raconté une histoire de livre pour enfants avec des elfes. On a vu un spectacle de cirque avec des monstres et un freak show avec un fœtus dans un bocal. Et puis, on a lu le journal avec l'enlèvement de l'enfant Lindbergh.
Alors justement, c'est intéressant, c'est le seul élément historique daté qui fait l'arrière-plan du film, c'est l'enlèvement du bébé Lindbergh 1934.
Voilà, et c'est pas que pour dire 1934. Évidemment, c'est très utile comme économie du récit, on comprend évidemment à ce moment-là pourquoi ils sont habillés comme ça, on comprend aussi tout le fond de néo-crise de 29, hein, parce que cette question de l'argent est quand même au cœur de cette exploitation familiale, et en même temps, plutôt que d'avoir choisi un autre fait divers, le côté enlèvement de l'enfant Lindbergh avec la monstruosité que c'est une piste pour la suite du film.
Troisième extrait de l'autre de Robert Mulligan. Autant la lumière était pure, le ciel était bleu, le soleil ardent dans le début du film, autant vers plus justement le film se déroule, plus l'on sombre dans la nuit, et c'est la nuit orageuse où tout est possible, où la girouette, où le corbeau n'est plus vivant mais ne devient une girouette de tôle qui grince, et où les enfants subitement disparaissent. Voilà, troisième et dernier extrait de l'autre de Robert Mulligan. Alors effectivement, on est dans l'univers de l'American Gothic, ce genre qui démarre avec Nathaniel Hawthorne et les premières communautés puritaines, passe ensuite par Edgar Poe, et évidemment aboutit avec des gens comme Flannery O'Connor vers cette espèce de ruralité hantée, de campagne hallucinatoire qu'on nous livre. Il ne s'agit pas là de faire l'exaltation de l'honnête fermier et de ses moissons fructueuses, mais au contraire de montrer que derrière ce calme et cette tradition, cette routine apparente, cette robustesse de l'Amérique rurale, monsieur Jean-Pierre, eh bien, tous les fantômes sont tapis.
Oui, et les fantômes de l'Amérique, pas seulement de l'Angleterre, on sent qu'il y a des Manitou derrière, et que cette terre est riche en ces petits indiens.
Voilà, et puis bah, on peut dire qu'un des grands héritiers de Robert Mulligan, ce sera Stephen King quand même, parce que tout est là, les enfants
tout à
du
fait,
maïs.
Tout à fait. Lui, il n'a pas avoué, Peter Straub l'a avoué.
L'autre de Robert Mulligan, formidable chef-d'œuvre, donc à découvrir ou redécouvrir grâce à Whiteside, donc dans ce coffret parfaitement réalisé. Un coffret donc où vous pouvez bénéficier et du DVD, monsieur Philippe, et du Blu-ray, puis de toutes les photos, et puis d'un texte quand même extrêmement
éclairant. Mais ne vous plaignez
éclairant.
Pas si vous avez peur. Hein.
Voilà, au contraire, si vous avez peur, eh bien, vous aurez toute notre confiance. Ghost from the Coast, un choix de Laurent Polleret pour évidemment maintenir et soutenir l'atmosphère gothique effroyable qui est ce soir, comme tous les soirs, comme tous les samedis soirs, dans Mauvais Genre. Alors on a démarré cette saison comme de juste avec Simon Liberati et Californian Girls autour de l'affaire Manson. La rentrée littéraire est en effet marquée par de nombreux monstres comme Fourniret ou Tony Meillon. Deuxième roman mansonien donc de cette rentrée, The Girls de McLean, Kay Voltaire. Vous l'avez lu pour nous, Sixtine Audebert. Alors là, autant Liberati, la mémoire et l'écritoire bondé d'informations, d'érudition, avec collé comme sous cloche à l'univers de la famille Manson, autant avec McLean, ben là, on a vraiment un roman, une décantation, et puis tout un travail sur la perspective et le regard, puisqu'il ne s'agit pas d'être collé au témoin, mais justement, d'abord de créer une fiction, des personnages imaginaires, et puis de bâtir quelque chose qui permet peut-être de voir de manière un peu décalé ce qu'a été l'affaire de la Manson Family.
Moi, je dirais que ce qui change vraiment radicalement avec le roman de Liberati, c'est, sans vouloir être prosaïque, avant tout le sexe de l'auteur. C'est-à-dire que l'autre roman est raconté du point de vue d'un homme, même s'il se met dans la peau des femmes à certains moments et donc il prend leur point de vue. On retrouve bien partout, finalement, une fantasmatique masculine, particulièrement la fantasmatique de la transgression. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans tous les livres de Liberati, puisqu'il prend toujours finalement des sujets qui sont des sujets féminins. Quand c'est James Mansfield ou quand c'est Eva Ionesco, c'est déjà ça. Et donc il applique finalement toujours ces cas un peu extrêmes et un peu étranges où il traite un sujet qui concerne la féminité. Là, c'était McLean, donc c'est une femme. Je ne vous apprends rien.
Non.
Et ça prend pas du tout la même couleur. C'est-à-dire que d'abord, le meurtre n'est pas raconté déjà. Comme chez Liberati, et on n'est pas concentré sur, je crois, c'était les 36 heures autour de cet événement. Il est seulement annoncé à la fin par les médias, on l'apprend par la télévision, par la radio, etc. C'est pas l'événement qui est du tout central. Il n'y a pas le focus est vraiment déplacé, et il est déplacé par l'insertion d'un personnage qui est inventé, qui est donc l'histoire est racontée du point de vue d'une adolescente de 14 ans qui s'appelle Evie Boyd. Et l'événement est rendu, les meurtres sont rendus complètement anonymes. C'est-à-dire que Charles s'appelle, dans le roman, Russell. Et il n'est pas question de la famille, à proprement parler. Et donc, l'affaire Manson, dans les lignes des McLean, devient un peu une espèce de fable sur le passage à l'âge adulte, où elle ajoute clairement une dimension initiatique. Et son roman, je dirais, porte plus, finalement, sur la féminité, la sexualité, the girls, les filles. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'au début du roman, on a une déconstruction assez acerbe de la féminité stéréotypée à travers plusieurs protagonistes. On a sa meilleure amie Connie, qui est trop préoccupée par les conseils des rubriques beauté dans les magazines féminins. Il y a sa mère qui se réfugie dans les philosophies New Age et qui multiplie les petits copains comme les régimes. Et la petite copine de son père, Tamar, qui est un peu le personnage de la jolie secrétaire, ambitieuse et toujours bien apprêtée. Et le constat, finalement, qu'elle tire de toutes ces figures féminines autour d'elle, c'est que c'est pas possible. Et donc, il y a un éclatement radical de la cellule familiale. Et au moment où elle s'échappe, donc elle tombe sous le charme d'une après-midi vous l'avez très bien écrit, François, d'une belle jeune fille magnétique qui sort d'un car noir. Et là, elle va reconstituer dans la famille. Donc, je rappelle qu'Emma Klein ne dit pas la famille, mais là, c'est véritablement la famille, la communauté. Donc, c'est finalement une espèce de famille fantasmée avec des rôles qu'elle attribue, elle, et une projection fantasmatique. Donc, il y a le personnage de Russell qui est donc le gourou, mais qui a aussi quelque chose du père freudien, avec l'ambiguïté des relations qu'il a avec ses filles. Il y a quelque chose d'incestueux aussi. Et puis, il y a la fascination pour Suzanne, donc qui est Suzanne Atkins dans La Véritable Affaire, et qui est donc quelque chose entre l'admiration, le besoin d'être connu et aimé en retour, et finalement un espèce de sentiment amoureux un peu homo-érotique qui est très fort. Alors bon, le questionnement qui hante Evie et qui permet finalement le ressort narratif, le prétexte du roman, c'est est-ce que je l'aurais fait, puisque quand elle raconte l'histoire, c'est une vieille dame. Et donc c'est la tentative de recréer une expérience, donc à la fois pour Evie vieille dame et pour le lecteur et pour Emma Klein. Et je dirais aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que il y a aussi une fascination pour quelque chose qui est bien plus intégré dans les schèmes de pensée américaines. C'est finalement la radicalité, l'expérience de la radicalité quand on est jeune dans les communautés sous-culturelles. Donc il y a aussi cette expérience là. Bon, après, moi, j'aurais une petite question pour Emma Klein, c'est pourquoi est-ce que cette jeune fille de 27 ans a été chercher une affaire aussi.
Voilà, on pourra lui poser la question, puisque elle vient bientôt à Paris.
Voilà.
Donc, une lecture romanesque, mais tout à fait aussi aiguë, donc, dans le cas de Simon Liberati, cette affaire. Manson, merci, Sixtine Audebert, donc, pour cette lecture de The Girls. On va terminer Mauvais Genre maintenant avec vous, Jean-Pierre Dionnet. On va rendre hommage à Carlos Nin.
Soy una niña que he nacido para la construcción de la exclusiva muerte telúrica bidimensional. Educada desde pequeña para mi actividad, la disciplina y la constancia me llevará a triunfar. Todos los días hago mi práctica como debe ser.
Jean-Pierre Dionnet, donc décès cet été de Carlos Nin, personnage extraordinaire, dessinateur génial.
Carlos Nin, en 91, je crois, fait un premier livre qui s'appelle Le canard qui aimait les poules, qui était très disneyien, sauf que les créatures en chair étaient bien en chair, assez sexuées, très belles. Je me souviens, à l'époque, j'ai croisé Étienne Robillard dans un festival à Annecy, et il m'a dit, j'ai pas lu de BD depuis 10 ans, qu'est-ce que j'ai raté? Je lui dis, le canard qui aimait les poules. Et il m'a dit, et quoi d'autre? Je dis, le canard qui aimait les poules. Il a ouvert, il a dit, effectivement. Et Carlos Nin voulait être peintre. Il voulait surtout être peintre. Et puis, il est devenu très célèbre en Argentine, car il est argentin, comme Breccia, qui était son maître spirituel, mais qu'il n'a pas connu. Et il avait un très mélange de réalisme et d'humour, constamment mélangé. Il changeait de support sans cesse. Il a fait des tonnes d'albums de BD. Mais en Argentine, il est surtout connu comme dessinateur de presse. Depuis 10 ans, il avait arrêté complètement la bande dessinée. Il est revenu pour un dernier album. Et la dernière lettre que j'ai eue, il y a un an, il me disait qu'il était très fatigué. Il habitait désormais à Panama. Alors dans son dernier album, qui est sorti juste avant sa mort, un peu prémonitoire, au Rêveur, son éditeur d'habitude, il était souvent exposé chez Maguen, eh bien on a un livre terrible, car ça commence avec de la pâte à modeler. Il montre Panama, les goûts du monde, avec des cadavres mélangés à des poissons, etc. Et le héros, qui est un héros qui revient souvent chez lui, qui est un détective en chapeau dont on ne voit jamais la tête, qui mène des enquêtes complètement foireuses pour des gens absolument inavouables et qui, en réalité, se tape à la fois la victime, la pécheresse et la méchante, dans son château qui ressemble soit à une bouilloire, soit à une paire de chaussures géantes. Et il dit quel magnifique palais, d'ailleurs. Eh bien, dans ce livre, le héros se révolte. Dans le premier chapitre, le fils de la foudre, Le héros dit Carlos a essayé de faire c'est la première histoire avec des sculptures en papier mâché. Je trouve ça complètement idiot. Mais enfin, je vais essayer d'arranger un peu l'histoire en la vivant. Je prendrai mes libertés. Ça s'appelle Le Fils de la Foudre. Dans le deuxième chapitre, je ne peux pas m'empêcher de le citer, Rebecca, le gars pas impitoyable. Là, au moins, les pastels et les crayons de couleur me semblent plus familiers sur le papier Fabiano. Mais j'ai dû puiser dans mes ressources physiques pour rendre la chose un peu plus émotionnelle. Voici donc Rebecca. Dans le troisième, il se plaint toujours. La revanche du verre. Aquarelle, Winsor et Newton, mon péché mignon. Un vrai plaisir pour le dessinateur. Carlos a une certaine habileté, mais il se fait vieux. Et cela lui a demandé beaucoup d'efforts. Dans le suivant, eh bien là, il a carrément repris une vieille histoire publiée en 83. Alors, j'ai changé complètement mon jeu d'acteur, dit le personnage, même si le dessin est assez précaire et élémentaire. Sans ça, Carlos ne s'en serait pas rendu compte. De toute façon, ce vieil imbécile écrit de pire en pire. Et enfin, dans le final, la route de Pandora, il dit « Ah, voilà un épisode trop long. Je ne sais même pas comment ça finir. Le salaire n'est pas suffisant pour ce travail. Je ne connais pas encore la fille aux cheveux roux, mais c'est une véritable saloperie. Enfin, j'ai réussi jusqu'ici à sauver l'album. Je continuerai jusqu'au bout. »
Et là, dernier album de Carlos Nin.
Et là, Carlos Nin, qui va mourir, raconte l'histoire d'un homme qui va mourir, qui est au bout du rouleau, et c'est d'une beauté physique extraordinaire, et je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années, le temps passe vite, c'était le dernier album, avant, qui s'appelait Fantagas, parce qu'il a fait de tout. Et je l'ai amené à Jean Giraud, alias Moebius, et il m'a dit, me montre pas ça, c'est le seul dessinateur qui fait des choses que je ne saurais pas faire, ça me ferait du mal de regarder son dessin.
Merci Jean-Pierre pour cet hommage au grand Carlos Nin qui nous a quittés cet été. On termine cette émission de Mauvais Genre, bien évidemment, avec Christophe Bire.
Les éditions Zoé à Genève continuent l'exploration inlassable de l'œuvre de Robert Walser. Inventeur d'une micrographie difficilement déchiffrable qui resserre le procédé d'écriture, presse les caractères, il façonne un espace privé créatif, minuscule et pourtant illimité, qui s'épanouit dans les années 20 avec une intense production dans les revues. Styliste exigeant, il est aussi lecteur omnivore qui prend plaisir à la littérature industrielle. Plusieurs fois, il mentionne des titres sentimentaux du Petit Livre, une collection en français créée par Ferenczi, production de masse vouée à l'oubli, aux conventions rudimentaires et au retour à l'ordre bourgeois. Des petits romans, commande-t-il, qui ne sont pas du tout de la bonne littérature, quoiqu'ils soient parfois assez bien écrits, c'est-à-dire de façon séduisante. Le pari des années folles de cette prose d'abattage génère un érotisme diffus propre à le stimuler. En confrontant les œuvres originelles avec les résumés que l'écrivain compose, Marion Graff révèle chez lui une poétique de la lecture qu'il définit par le mot « Anlesen », lecture désacralisée qui sert de matière première pour une recréation. Les 95 pages du « Semeur de larmes » de Georges Sim, autrement dit Simenon, encore polygraphe en 1928 chez Ferenczi, sont détournées par Walser en moins d'une page. Le cœur tendre d'une jeune fille palpite pour un séducteur mondain. Peu scrupuleux, celui-ci fait chanter sa mère, dont il avait été l'amant. L'honneur familial est sauvé dans un final au kitsch paternaliste. Avec ironie et liberté, Walser renverse la passivité des femmes, chez lui follement intéressé par la fréquentation de l'aventurier démoniaque qui décampe avec l'argent et une femme de chambre sans subir la condamnation morale de Simenon. Au sujet de « Quand l'amour veut » de Jean de La Hire, Walser le réinvente avec un zèle parodique, notant le manque des données météorologiques, des descriptions de personnages et de lieux et l'absence totale d'humour. Dans ce mini Zoé numéro 99 qui rappelle le format des fascicules Ferenczi, Marion Graff fait de Walser, recycleur, persifleur de textes triviaux, un père de l'esthétique postmoderne et rappelle ses lignes du brigand qui fit ensuite main basse sur des histoires, c'est-à-dire qu'il lisait toujours ses petits livres populaires et qu'avec les récits qu'il avait lus, il en fabriquait d'autres tout à fait personnels, ce qui le faisait rire.
Merci Christophe Beer. Je rappelle les sujets traités ce soir. Camille Moravia, l'exposition à la galerie La Voûte à Paris. Robert Mulligan, donc en Blu-ray et DVD chez Whiteside Video. Et MacLean, The Girls, aux éditions Quai Voltaire. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Stéphane Desmond, Claire Martin-Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Jean Carmont recommande également Tropical Mambo aux éditions Les Rêveurs de Carlos Nin. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau Mauvais Genre bande dessinée avec Florence Sestac, qui est maintenant supersonique.